Plusieurs années auparavant, le prophète Daniel avait eu une vision qui l'avait rendu tout simplement malade parce qu'il ne l'avait pas comprise. Dans ce qu'il avait vu et entendu, le prophète Daniel avait compris que Dieu n'allait pas pardonner les fautes de son peuple jusqu'à ce que le temple soit reconstruit, et il avait compris que le temple ne serait reconstruit que dans 2300 années. Autant dire, Dieu n'est pas prêt à pardonner tout de suite. C'est ce que Daniel avait compris. Et moi, je comprends qu'il était malade après ça. Les années ont passé et Daniel était inquiet parce qu'il voyait arriver le temps où la captivité à Babylone devait s'arrêter, selon les prophéties de Jérémie, mais il ne voyait rien de concret se mettre en place pour la réalisation de ce qu'il avait lu, à savoir la libération, le retour de son peuple. Alors Daniel va prier et va jeûner. Daniel est âgé, il a déjà 70 ans, passé probablement, et il voudrait voir la réalisation de la promesse. Il avait lu dans la prophétie que le peuple allait être déporté pendant 70 ans. Mais il voulait voir le retour à Jérusalem. Il voulait vivre ce pardon de Dieu. Alors Daniel va prier. Et nous avons un résumé sans doute de sa prière dans le livre Daniel au chapitre 9. Nous n'allons pas lire sa prière en entier, mais j'aimerais lire ce qui est écrit au verset 3. Daniel chapitre 9, verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priai mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et Daniel continue sa prière. Mais dans son introduction, Daniel donne l'état d'esprit dans lequel il s'approche de Dieu. Vous avez remarqué, supplication, jeûne, repentance, confession. C'est dans cet état d'esprit-là que Daniel se présente à Dieu dans la prière. Humilité, intercession, supplication, confession. Il sait qu'il est membre, qu'il est partie intégrante de ce peuple que Dieu a laissé partir en captivité en conséquence de son péché. Et Daniel veut prier, supplier Dieu. Dans ce même chapitre, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il nous en est parlé un petit peu plus loin, verset 20, où il est dit « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. » Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Daniel est encore en prière. Daniel est en train de supplier Dieu, de confesser son péché et celui de son peuple. Et alors qu'il est en train de faire cela, Dieu envoie son ange, Gabriel, pour répondre à sa prière. D'ailleurs, dans les versets qui suivent, l'ange Gabriel va lui dire, « Daniel, écoute bien. La dernière fois que je t'ai parlé, il y a quelques années, tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Cette fois-ci, ouvre bien tes deux oreilles et comprends la vision. » Daniel va avoir la grâce de recevoir la réponse à sa prière alors même qu'il est en prière. Et vous avez remarqué, il le dit, je priais, je suppliais, je jeûnais. Pour Daniel, c'était devenu essentiel. Il avait une préoccupation. Quelle est la volonté de Dieu pour mon peuple? Quand donc Dieu va-t-il accomplir la promesse qui est écrite dans sa parole? C'était sa préoccupation. Manger, boire, dormir, tout ça pour lui, maintenant était devenu secondaire. Il y avait une chose. Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est un moment crucial parce que, alors que Daniel est en prière, l'ange va venir donner la réponse à sa prière. Et sa réponse est extraordinaire. Parce que dans la vision qu'il va recevoir, il va avoir les indications concernant la venue du Sauveur. Sans aucun doute, la fin de la captivité est importante. C'est ce qu'il a en vue. Il veut voir Jérusalem reconstruite. Mais au-delà du retour à Jérusalem, au-delà d'une ville restaurée et reconstruite, il y a la venue du Sauveur qui revêt une importance capitale parce que c'est lui qui va nous sauver. C'est une libération encore plus grande qu'il a en vue, c'est la libération du péché. J'aimerais prendre un autre exemple qui se trouve dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, au chapitre 4, j'aimerais lire 2 ou 3 versets avec vous. Vous vous souvenez de l'histoire d'Esther, cette jeune fille qui n'avait pas prévu de se retrouver au palais du roi, mais que Dieu va utiliser dans un moment particulier de l'histoire de son peuple. Esther, un top modèle de son temps, va arriver au palais du roi, mais personne ne sait qu'elle est juive. Avec son oncle Mardochée, ils vont être les instruments par lesquels Dieu va libérer aussi son peuple. Regardez comment elle s'adresse à son oncle. Au chapitre 4 de son livre, au verset 15, il est écrit ceci. Esther, chapitre 4, verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Esther est déterminée. Déterminée à demander l'action de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à son oncle de rassembler tous les Juifs de Suse pour qu'ils jeûnent, et elle dit « Moi aussi, avec mes servantes, je vais prier au palais du roi. » Et lorsque nous aurons prié et jeûné pendant 3 jours, je me présenterai devant le roi, et cette fois-ci, ça sera quitte ou double. C'est une manière pour Esther de dire à Dieu « Seigneur, si tu n'interviens pas, si tu ne fais rien, je suis perdu. Tu ne m'as pas mis ici pour rien. Alors maintenant, fais quelque chose. » De l'audace? Je ne pense pas. De la confiance. L'assurance que le seul qui peut faire quelque chose, c'est Dieu. Et de le lui demander comme étant la priorité par excellence. C'est pour cela seulement qu'elle a prié. Elle n'avait pas d'autre sujet de prière. L'intervention de Dieu pour libérer son peuple. Elle avait sans aucun doute mille et une autres raisons de prier Dieu. Ce n'était pas le moment. Il y avait une priorité qui dominait toutes ses préoccupations. Seigneur, interviens et libère mon peuple maintenant. Et l'histoire, vous la connaissez, c'est ce que Dieu a fait. Ils ont prié, ils ont jeûné. Il y a dans les Écritures un autre exemple que j'aimerais regarder avec vous dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7. C'est un moment troublé de l'histoire d'Israël. L'Arche de l'Alliance avait été prise par les Philistins. Ils l'avaient capturée au moment d'une bataille alors que le peuple d'Israël avait pensé faire de cette arche un talisman, un objet magique qui allait les protéger. Eh bien non, l'Arche a été prise par les Philistins. Et puis, cette arche est devenue un objet de malheur pour les Philistins. Alors les Philistins l'ont rendu au peuple d'Israël. Mais bien que Dieu soit intervenu malgré tout en leur faveur, l'idolâtrie a continué dans le peuple comme avant. On va se préoccuper de nouveau de cette arche. On va vouloir la déplacer. On va vouloir utiliser les bénédictions que cette arche peut apporter pour résoudre toutes sortes de problèmes. Mais Samuel, le prophète, comprend que le problème du peuple est beaucoup plus profond que ça. Et il s'adresse à son peuple dans 1 Samuel au chapitre 7, au verset 3, il est dit ceci. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Samuel ici apporte la recette, une recette dont le peuple a besoin parce qu'ils ont cette mentalité très magique de vouloir utiliser un objet sacré pour prendre leur défense, pour les bénir, pour résoudre leurs problèmes. Et Samuel va plus loin, il leur dit, voilà ce que vous devez faire. Et vous avez remarqué, il le dit en trois étapes qui se trouvent dans notre texte. Revenez à l'Éternel, ça c'est la repentance. Il dit ensuite, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Ça c'est le rejet du péché. Reconnaître nos fautes et les enlever du chemin. Retirer ce qu'il y a entre nous et Dieu qui nous sépare de Dieu et qui l'empêche d'accomplir sa volonté. Troisièmement, dans le même texte, Samuel dit, servez-le lui seul. Samuel invite son peuple à une consécration totale, une reconsécration. En fait, il invite le peuple à vivre véritablement un réveil et une réforme. S'approcher de Dieu dans un esprit de repentance, abandonner le péché, les fautes, les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques qui ont encombré leur vie, réforme et engagement. Servez-le lui seul, abandonnez tout le reste. Il y a Dieu et c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. C'est exactement ce que Samuel propose à son peuple de vivre à ce moment-là, comme la solution en profondeur au problème qu'il traîne depuis des années et des dizaines d'années. En conséquence de cela, quelques versets plus loin, il nous est dit ce qui arrive. Verset 5, 1 Samuel, chapitre 7, verset 5, il est dit, Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Samuel invite le peuple. Il invite le peuple à un réveil et à une réforme. Et ils disent, « Oui, nous allons jeûner et nous allons prier et nous allons revenir à l'Éternel. » Vous remarquez dans ce passage la séquence des événements. Le jeûne n'est pas une pratique magique. Le jeûne n'est pas une œuvre à accomplir pour se rendre favorable aux yeux de Dieu. Au contraire, ils reviennent à Dieu et parce qu'ils reviennent à Dieu, ils sentent le besoin de jeûner et de prier. Dans ce sens-là, le jeûne est en réalité la conséquence d'un changement d'état d'esprit. Le jeûne est la conséquence de cette œuvre de repentance qui a déjà commencé dans leur cœur. Le jeûne n'est pas une œuvre à accomplir, une bonne œuvre à faire pour que Dieu nous entende. Ce n'est pas non plus une mortification pour que Dieu ait pitié de nous et qu'il prête attention à nos demandes. C'est la conséquence d'un état d'esprit qui a déjà changé, d'une attitude différente vis-à-vis de Dieu, d'une attitude différente vis-à-vis de nous-mêmes et de ce que nous sommes. C'était d'ailleurs aussi la pratique de Jésus. Dans le premier volume des témoignages, à la page 251, Ellen White écrit ceci. « Si le Sauveur des hommes, avec la divine puissance qui était en lui, sentait le besoin de prier, combien plus nous qui sommes faibles et pécheurs devrions-nous comprendre la nécessité d'une prière fervente et incessante ?» Quand le Christ était le plus cruellement assailli par la tentation, il ne mangeait pas. Il se recommandait à Dieu et sa soumission absolue à la volonté de son Père lui donnait la victoire. Plus encore que tous les autres chrétiens dans le monde, ceux qui ont discerné la vérité pour les derniers temps devraient suivre dans la prière le grand exemple du Christ. À un moment particulier, solution particulière. Et il est clair que nous vivons un temps particulier dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas besoin aujourd'hui d'être un chrétien pour se rendre compte que le monde va droit dans le mur, vers une échéance. Et on a l'impression que les chrétiens ne sont pas les plus motivés pour se préparer à cette échéance. si la situation est véritablement l'objet d'une préoccupation profonde, alors il faudra prendre des mesures qui sont en proportion avec la situation auquel on a à faire face. Jésus était venu pour apporter au monde ce sacrifice nécessaire pour le salut. Il avait besoin de pouvoir continuer cette vie sans péché par un lien particulièrement étroit avec Dieu. Et si Jésus avait besoin de ce lien particulier, s'il avait besoin de la prière et du jeûne pour y arriver, à combien plus forte raison, nous aussi, avons-nous besoin de cette ressource que le Seigneur nous a donnée? J'aimerais prendre encore un exemple dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, où Jésus raconte une histoire. Jésus raconte une histoire, une parabole que nous connaissons bien, la parabole du pharisien et du publicain. Luc chapitre 18, j'aimerais lire à partir du verset 11, où Jésus dit « Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Jésus ici crée une situation paradoxale et étonnante, en particulier pour les gens de son temps. Parce que celui qui jeûne, celui qui vient au temple et qui prie, celui qui est un bon chrétien, celui qui est fidèle, ce n'est pas celui qui rentre justifié chez lui. Et pourtant, il dit « Je jeûne deux fois par semaine. » Qui fait ça? Par contre, le publicain, celui que personne n'aime, celui qui reconnaît qu'il est un voleur et qu'il est un pécheur, c'est celui-là, nous dit Jésus, qui rentre chez lui justifié. Mais il ne jeûne pas, lui. Il n'observe pas la loi, lui. Il vole les autres et il le sait en plus. Et Jésus dit, c'est celui-là qui va rentrer chez lui pardonné. Cette histoire est véritablement scandaleuse pour les gens de son temps. Parce que les pharisiens peuvent dire, oui, mais alors ça sert à quoi tout ce que je fais? C'est justement la bonne question. Ça sert à rien. Parce que tu n'as pas ce cœur ouvert à l'influence de ton Sauveur. L'un avait la forme. Et la forme ne lui a servi de rien. L'autre avait le fond. Dans son cœur, il y avait ce désir de changer. Mais il ne jeûnait pas. Il est venu cependant prier au temple en disant « Seigneur, aie pitié de moi ». Il avait par contre l'état d'esprit du jeûne et de la prière. Nous sommes invités à avoir les deux, à utiliser ces deux moyens que Dieu nous donne pour nous présenter à lui et avancer dans notre marche avec lui. Le jeûne n'est pas une grève de la faim. Le jeûne n'est pas un moyen de mettre la pression sur Dieu pour qu'il nous écoute. Ce n'est pas une mortification. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour impressionner Dieu afin qu'il nous écoute, qu'il prête attention à nos prières parce qu'il est tellement occupé à autre chose. C'est rien de tout ça, le jeûne. D'ailleurs, dans le livre du prophète Jérémie se trouve cette parole au chapitre 14. Dieu dit, « S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. » Précisément parce qu'ils sont dans cet état d'esprit décrit par Jésus, où ils vont remplir les devoirs et les rites et les formes, mais leur cœur est tout à fait ailleurs. Dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 7, le prophète pose cette question de la part de Dieu et les invite à réfléchir. Dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 7, il est écrit ceci au verset 4. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans. Est-ce pour moi que vous avez jeûné ? Ces gens jeûnent depuis 70 ans. Ils ont toute une organisation pour jeûner à des moments particuliers. Et Dieu leur dit, mais ça fait 70 ans que vous jeûnez, et ça sert à quoi ? Est-ce que ça a changé votre cœur ? Vous avez simplement rempli vos devoirs et accompli les routines et suivi les programmes. Et il leur dit, mais quand vous avez jeûné, c'était pour qui ? C'était pour moi ou c'était pour vous ? Et il leur dit après, quand vous mangez, quand vous buvez, ça c'est pour vous. Mais quand vous jeûnez, c'est pour vous faire bien voir ou bien c'est pour réformer vos vies ? Le Seigneur leur fait comprendre que, en fait, ils vivent maintenant vers la fin de la captivité, de la même manière que leurs ancêtres vivaient au début de la captivité qui l'a provoquée. Ça sert à quoi alors ? Dieu essaie de leur faire comprendre que le jeûne est en réalité la conséquence, ce qui va logiquement suivre d'un changement d'état d'esprit, d'un changement de disposition vis-à-vis de Dieu. C'est une réaction normale, naturelle, spontanée de celui qui réalise son besoin de la présence de Dieu dans son existence. J'aimerais prendre encore un autre exemple dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 58, où se trouve toute une présentation sur le jeûne et la prière. Dès le premier verset, il est dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils viennent à Dieu, ils lui demandent sa volonté, ils cherchent à savoir ce que Dieu veut, mais ils n'en ont cure. Ça leur est tout à fait égal. Ils font de toute façon ce qu'ils veulent. Vous continuez selon vos propres penchants. À quoi est-ce que ça peut bien servir que je vous révèle ma volonté si de toute façon vous n'êtes pas prêt à la réaliser ? Le jeûne est devenu une forme, une routine, une habitude. En réalité, le jeûne et la prière qui vont ensemble représentent un moyen puissant que Dieu nous a donné. Dans le livre « Conseils sur la nutrition » par Ellen White, à la page 222, il est écrit ceci. « Dans la main de Dieu, le jeûne et la prière constituent un moyen pour purifier le cœur et pour fortifier les facultés de perception de l'intelligence. Nous obtenons l'exaucement de nos prières parce que nous nous humilions, parce que nous humilions nos âmes devant Dieu. » Le jeûne et la prière pour purifier nos cœurs et fortifier notre intelligence et notre perception. Vous vous souvenez, lorsque Jésus écrit une lettre personnelle à l'église de Laodicée, l'église des derniers temps, il lui dit entre autres, « Tu as besoin d'un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Autrement dit, que tu sois capable de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est ta volonté et ce qui est la volonté de Dieu. Le jeûne et la prière est pour nous le moyen que Dieu nous donne d'apprendre à discerner les choses, à voir clair, à recevoir son esprit. C'est ainsi que le Seigneur peut exaucer sa prière pour ceux qui savent s'humilier devant lui. Mais c'est difficile de s'humilier, nous le savons tous. Un peu plus loin dans le même chapitre d'Ésaïe 58, au verset 9, Dieu ouvre la perspective vers ce qui serait possible si les conditions étaient remplies. Il est dit au verset 9, « Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici. » Nous voudrions que le Seigneur, quand nous l'appelons au secours, dise, « Me voici, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» L'humilité, c'est une démarche qui va à l'encontre de ce qui est aujourd'hui politiquement correct. Épanouis-toi, Vous pouvez prendre des cours sur l'épanouissement de soi pour être capable de vous imposer aux autres. Tu peux le faire. Tu es capable. Vas-y. Impose-toi. D'ailleurs, dans le monde d'aujourd'hui, si on ne s'impose pas, on n'a rien. Alors vas-y. C'est en fait le succès du plus arrogant, le succès de celui qui mord le plus fort, de celui qui parle le plus fort, de celui qui donne l'apparence d'avoir le plus d'assurance en lui-même. Et le Seigneur nous propose de nous humilier devant lui, de venir à lui avec le sentiment profond que nous ne sommes rien. Si Dieu se retire, nous disparaissons. Dieu ne répand-il pas la pluie sur les bons, sur les méchants? Ne fait-il pas briller son soleil sur les bons, sur les méchants? Et tous ces méchants-là, arrogants, lèvent le poing contre Dieu sans même savoir que si Dieu se retirait et retirait ses bénédictions, il disparaîtrait au même instant. Dieu voudrait nous voir nous présenter à lui conscients de ce que nous sommes et conscients de qui il est. Alors tu appelleras et je répondrai, me voici. Il y a des conséquences à ce jeûne et à la prière. Au verset 12, un petit peu plus loin, toujours dans Ésaïe 58, il est dit, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rendra le pays habitable. » Celui qui va vivre le jeûne et la prière, cette consécration totale à Dieu dont on parle dans ce chapitre, sera appelé à remplir une mission là où il est. Restaurateur de brèches, constructeur. C'est ce à quoi nous sommes appelés exactement. Restaurer, reconstruire. Reconstruire dans l'esprit de nos contemporains la véritable image de qui est Dieu pour eux. D'ailleurs, les versets qui suivent nous indiquent un endroit où une restauration importante est nécessaire. Il est dit au verset 13, « Si tu retiens ton pied pendant le jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, alors, verset 14, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. » Il y a une brèche énorme à combler et à restaurer dans le monde d'aujourd'hui, c'est cette brèche qui a été faite dans la loi de Dieu. Dans ce mode d'emploi que Dieu a donné pour nous permettre de vivre selon les plans du Créateur. Une brèche énorme a été faite. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que cette loi ne sert plus à rien ni à personne. Et le sabbat, bien entendu, qui est le cœur de cette loi, n'a plus aucun sens. Ceux qui ont fait cette démarche de s'approcher de Dieu par le jeûne et la prière selon le plan de Dieu, sont invités non seulement à jouir d'une communion spéciale avec lui, mais à devenir des restaurateurs dans leur temps, restaurateurs de ce que Dieu a apporté pour que l'humanité puisse vivre selon son plan et dans l'attente de son retour. Il ne faut donc pas s'étonner si en se relevant du jeûne et de la prière, le Seigneur met dans nos cœurs une motivation particulière pour la mission dans le monde d'aujourd'hui. Dans la revue Adventiste du 17 décembre 1901, Ellen White écrivait « L'œuvre que les Adventistes ont à faire est décrite dans le 58e chapitre d'Ésaïe. Qui donc est prêt pour accomplir cette œuvre ?» Restauration. Mais on ne va pas pouvoir restaurer avant d'être nous-mêmes restaurés. Le jeûne, c'est cette attitude du croyant devant Dieu qui lui demande, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Le jeûne, ce n'est pas l'abstention de nourriture. De la même manière que la dîme n'est pas d'abord une question d'argent, de la même manière que le baptême n'est pas pour nous laver le corps, le jeûne n'est pas non plus une question de nourriture, ni même une question de santé. Le jeûne est d'abord une question de priorité. Le jeûne, c'est ce qui accompagne le réveil et qui nous permet de nous mettre en communion avec Dieu pour savoir maintenant, Seigneur, quelle réforme veux-tu que nous accomplissions? Quelle mission as-tu pour que nous la remplissions? Le jeûne, c'est d'abord une question de priorité. Mettre les priorités autrement que nous avons l'habitude de les mettre, pour donner à Dieu un message clair en lui disant « Il y a dans notre cœur quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, quelque chose de primordial, quelque chose de crucial, et nous voulons te le dire. » Dans le livre « Conseil sur la nutrition », à la page 223, Ellen White écrit ceci. « Le vrai jeûne, qui peut être recommandé à tous, consiste dans l'abstention de toute nourriture excitante et dans l'usage modéré d'une nourriture simple, saine et appropriée, dont Dieu nous a abondamment pourvus. Les croyants doivent moins penser à ce qu'ils mangent et boivent matériellement et se soucier davantage de la nourriture céleste qui anime et tonifie la vie religieuse. Le jeûne est une question de priorité. Et nous le faisons couramment. Il est arrivé quelquefois, oh je suis sûr à quelques-uns d'entre vous, de faire sauter un repas pour pouvoir regarder un match à la télévision, pour pouvoir regarder un film particulier. Il vous est arrivé de faire sauter un repas parce que vous aviez envie de terminer votre lecture, ou parce que des amis sont arrivés et vous êtes parti avec eux. Vous avez jeûné en mettant en priorité le match, les amis, le film, le livre, ou que sais-je encore. Le jeûne, c'est une question de priorité. Ce que Dieu nous propose, c'est de le mettre en priorité et de faire passer le reste au second plan. Non pas en nous imposant un fardeau écrasant, non pas en ayant un estomac qui fait des nœuds tellement il a faim, c'est pas l'idée. Mais de donner à Dieu ce message clair, et de le vivre nous-mêmes, qu'il y a une nouvelle priorité aujourd'hui dans notre existence. Ça peut être dans notre vie personnelle, mais ça peut être aussi dans notre vie d'église. Et c'est précisément ce que je vous invite de vivre sabbat prochain. Une journée de jeûne et de prière, où en tant qu'église, nous disons à Dieu aujourd'hui notre priorité, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans le manger, dans le boire, elle est maintenant dans l'ouverture de notre cœur à l'action de ton Saint-Esprit. Le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim, ce n'est pas une bonne œuvre pour que le Seigneur daigne finalement nous entendre et nous exaucer. Le jeûne, c'est faire passer nos préoccupations matérielles au deuxième plan et faire passer les préoccupations éternelles au premier plan. C'est une question de priorité. Le jeûne est en réalité la conséquence d'un état d'esprit qui a déjà commencé à changer en moi. Le jeûne, c'est choisir un autre mode de vie en préparation pour l'action du Saint-Esprit de Dieu. Le jeûne, c'est se préparer pour la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et cette mission, en fait, elle est un des moyens les plus efficaces pour que nous soyons nous-mêmes prêts au retour de Jésus dont nous parlons tant. Dans le 8e livre des témoignages, à la page 19, Ellen White écrit ceci, une promesse extraordinaire. Il n'y a pas de limite à ce que peut accomplir celui qui, mettant le moi de côté, ouvre son cœur à l'action du Saint-Esprit et mène une vie entièrement consacrée à Dieu. Pas de limite. Moi, je voudrais vivre cette expérience où il n'y a pas de limite à ce que le Seigneur peut faire en moi et par moi.